franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le procureur de la République de Marseille vient de confirmer les informations qui circulaient depuis la nuit dernière concernant la catastrophe de l'Airbus A320 de la Germanwings. Il a confirmé qu'il y avait bien un seul homme aux commandes de l'appareil lorsque l'avion s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence. Cet homme, Yann Gallix, c'est le copilote. Le procureur a été très clair sur ce point. L'analyse des données a permis de reconstituer ce qui s'était passé. Pour les enquêteurs, le copilote a provoqué la chute de l'avion et il l'a fait volontairement.
Oui, le procureur de la République de Marseille a détaillé le déroulement des événements jusqu'au crash de l'avion. Et d'après les enregistrements des conversations entre les deux pilotes, le début du vol s'est fait tout à fait normalement, avec des échanges sereins et enjoués entre le commandant de bord et son copilote, jusqu'au moment du briefing de l'atterrissage vers Düsseldorf. Les réponses du copilote sont alors jugées laconiques, pour reprendre les mots du procureur. Puis le commandant de bord quitte le cockpit, sans doute pour aller aux toilettes. Il ne réussira jamais à retourner dans la cabine de vol, selon Brice Robin, le procureur de la République.
C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Mais aucune réponse de la part du copilote.
Et aucun message de détresse ou d'urgence n'a été reçu par les contrôleurs aériens. Le copilote est resté muet aux appels répétés des contrôleurs. Sur les enregistrements de la boîte noire, on entend sa respiration, celle du copilote, jusqu'à l'impact de l'avion, ce qui signifie qu'il était vivant jusqu'au crash.
L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine au commandant de bord et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion.
Alors au regard évidemment de ces dernières informations, la thèse la plus probable et celle qui circulait d'ailleurs depuis ce matin et les révélations du New York Times et de l'AFP est celle du suicide ou de l'attentat suicide, même s'il faut rester alors qu'il est encore très prudent.
Effectivement, merci beaucoup Yann Gallix et on attend évidemment des précisions sur ce copilote. On sait qu'il avait rejoint la compagnie en 2013. Par ailleurs, les familles des victimes continuent d'arriver en France. Ce matin, deux vols en provenance de Barcelone et de Düsseldorf sont arrivés à Marseille. Les proches des victimes doivent maintenant être acheminés sur le site de la catastrophe où les recherches se poursuivent. Le deuxième grand titre de l'actualité, c'est cette vaste opération militaire lancée pour sauver le président yéménite. Elle a été lancée par l'Arabie Saoudite qui a pris la tête d'une coalition comprenant les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, mais aussi l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Pakistan et le Maroc. Les États-Unis indiquent fournir un soutien logistique. L'opération est destinée à repousser l'avancée des miliciens chiites houthis qui ont pris le contrôle d'une partie du pays ces derniers mois, et cela afin d'éviter qu'il n'arrive jusqu'à Aden, où est réfugié le président Hadi. L'Iran dénonce une opération dangereuse. En Tunisie, 23 personnes interpellées depuis l'attentat du musée du Bardo le 18 mars dernier. C'est ce qu'indique le ministre tunisien de l'Intérieur qui accuse Al-Qaïda. Les dépouilles des trois Français tués dans l'attentat seront rapatriées cet après-midi en France. Un revers pour le gouvernement à trois jours du second tour des départementales. Le chômage a augmenté en février, 12 800 personnes de plus se sont inscrites à Pôle emploi. Il y avait à la fin du mois dernier près de 3,5 millions de chômeurs en France. Huitième jour de grève à Radio France. Hier, le gouvernement a demandé au président Mathieu Gallet de présenter d'urgence un projet précis pour l'entreprise. Il a dans le même temps rejeté la responsabilité de la situation financière de Radio France sur l'ancienne majorité. Ce matin, nouvelle assemblée générale des personnels grévistes, Véronique Julia, et concert de l'orchestre philharmonique dans le hall de la maison de la radio.
Oui, devant une foule compacte, une dizaine de musiciens grévistes de l'orchestre philharmonique ont joué du Mozart dans le grand hall de la maison. Ensuite, les grévistes ont enchaîné par leur assemblée générale où ils ont voté la reconduite de la grève jusqu'à demain. La délégation reçue hier après-midi par le directeur de cabinet de Fleur Pellerin au ministère de la Culture n'a pas été du tout, semble-t-il, convaincue par les arguments de la tutelle. L'intersyndicale de Radio France estime que la rue de Valois et la direction de la Maison Ronde se renvoient la balle. La tutelle n'aurait pas l'intention, disent les syndicats, d'accorder au groupe la moindre rallonge budgétaire. Elle aurait confirmé qu'une restructuration est inéluctable. Par ailleurs, les 15 jours donnés au PDG Mathieu Gallet pour proposer un projet stratégique précis paraissent longs au syndicat. À la demande des grévistes, une nouvelle séance de négociation est prévue à 15h30 cet après-midi avec la direction. Les syndicats avaient l'intention aussi de rédiger dans la journée une motion de défiance vis-à-vis de la politique envisagée pour Radio France. La motion pourrait être soumise au vote de l'AG demain. 8% de grévistes ce matin, d'après les chiffres communiqués par la direction.
Merci beaucoup Véronique. Julia, pour terminer, faut-il le rappeler, ce soir il y a du football au Stade de France. France-Brésil, c'est un match amical.